Quand Thierry m'a demandé d'organiser une activité d'échange autour de Pisa cet après-midi, j'ai réalisé que ça faisait déjà 10 ans que Pisa existait et que nous en étions, avec la publication des résultats dont va nous parler M. Brochu, nous en étions déjà rendus à une troisième ronde d'évaluation. Et que, ma foi, Pisa était presque intégré dans notre paysage et qu'on prend ça par, comme une évidence qui nous tombe dessus à tous les 3 ans. Et dans le cas du Québec et du Canada, qui nous tombe bien dessus parce que les résultats sont bons. Et je me suis dit, ma foi, ça vaudrait peut-être la peine d'essayer de réfléchir sur ce qui s'est passé dans ces 10 ans-là. D'où vient Pisa? Qu'est-ce qui nous apporte? Qu'est-ce qu'il est et dans quelle mesure il a un impact sur les différents paliers de nos systèmes éducatifs, des politiques jusqu'à nos pratiques. Alors on va essayer, même si sauf Monsieur Brochu et Jake, enfin moi personnellement je ne suis pas du tout un spécialiste de PISA, mais je m'intéresse au phénomène PISA. Et ce qu'il représente. Alors, on s'est dit qu'on organiserait ça à peu près comme ceci. Je vais dire 2-3 petites affaires rapides sur l'OCDE et PISA, d'où ça vient. Et M. Brochu nous présentera l'instrument, ce qu'il est, comment il est géré, et puis répandra la bonne nouvelle concernant le Canada et le Québec sur les résultats de 2009. Jake, par après, abordera quelque chose qui s'est beaucoup développé depuis que PISA existe, c'est-à-dire des analyses secondaires des bases de données PISA autour de la problématique de l'efficacité et de l'équité des systèmes éducatifs. Je ne sais pas si c'était un effet voulu de PISA, mais on peut dire que PISA a généré beaucoup d'études et a mis de l'avant la problématique de l'efficacité et de l'équité des systèmes éducatifs. Dans un troisième temps, moi, j'aborderai la question de comment PISA est reçu au Canada et au Québec et dans d'autres pays et les usages que l'on en fait, comment ça se marie au débat politique, comment ça s'intègre, comment c'est utilisé, ce qui nous permettra de peut-être échanger un peu sur les rapports entre recherche et politique éducative. Voilà. Alors, quelques éléments d'information rapide de nature historique. Je pense que c'est important de savoir que PISA n'est pas la première enquête internationale comparative sur les acquis des élèves. Les plus vieux ici se souviennent de l'International Association for the Evaluation of Educational Achievement, qui a été fondée officiellement en 1967, mais qui avait commencé à travailler à la fin des années 50. Et qui a piloté et pilote encore, je crois, le cycle TIMSS, c'est-à-dire en mathématiques et en sciences. L'IA a fait les études en 99, 2003, 2007 dans le cycle TIMSS et le cycle PIRLS pour le Reading Literacy en 2001 et 2006. Ce n'est pas rien. Il y a donc des précédents qui procèdent. Probablement, M. Brochu pourra peut-être nous éclairer là-dessus, mais d'une manière un peu différente dans l'instrument. Les Américains ne sont pas en reste aussi avec l'International Assessment of Educational Progress de Education Testing Service. Il y a donc, depuis au moins 40 ans, une tentative de mesure à l'échelle internationale, de mesure quantitative des acquis scolaires. Et donc l'OCDE, lorsque l'OCDE a mis sur pied son programme d'INES, c'est-à-dire sur les indicateurs des systèmes d'enseignement, c'est de là que ça a commencé. L'OCDE a mis sur pied, vous avez déjà regardé ça, là, les regards sur l'éducation, les indicateurs de l'OCDE, une publication assez volumineuse et annuelle sur les indicateurs de l'éducation. À un moment donné, l'OCDE s'est dit, pour compléter ce programme-là, il nous faut mesurer des indicateurs de résultats. Et ils ont utilisé à ces fins une expertise qui existait déjà dans les institutions dont je parlais tout à l'heure. Avec PISA, l'OCDE met la question des acquis scolaires dans l'arène publique. D'une certaine façon, l'IA, c'est un machin beaucoup moins important sur le plan des moyens et sur le plan j'allais dire de la diffusion. Mais avec PISA, et, c'est-à-dire avec l'OCDE, la question des acquis scolaires devient un enjeu public important, en même temps que l'OCDE met de l'avant une conception de ses acquis en termes de compétences assez générales qui ne dépendent pas d'un enseignement spécifique. Par rapport aux anciennes évaluations, la différence entre ce que faisait l'IEA ou ce qu'a pu faire des institutions américaines, c'est qu'on ne mesure pas ici des connaissances apprises par un curriculum national, on mesure des compétences générales détachées du curriculum. Ce qui rend, si vous voulez, du point de vue méthodologique, la comparaison internationale plus facile. On ne peut pas dire « ça n'a pas été enseigné ». Vous comprenez? La question n'est pas de savoir si les items du questionnaire renvoient donc à des connaissances apprises. Ce que l'on mesure, c'est des compétences assez générales qui ne dépendent pas d'un enseignement spécifique et qui probablement sont liées avec la théorie du capital humain. L'OCDE, vous le savez, mais je le rappelle parce que c'est important, c'est quand même lui qui produit tout ça, puis il ne fait pas ça pour nos beaux yeux. L'OCDE, c'est une organisation internationale qui regroupe 33 pays membres, qui a été créée après la Deuxième Guerre mondiale, et qui est essentiellement quelque chose d'assez particulier. C'est une instance de régulation économique internationale qui fonctionne par des échanges et une coordination entre pays membres à l'échelon ministériel et de la haute fonction publique et qui produit. C'est une instance de régulation économique, mais c'est aussi une immense machine à produire du savoir. Le CRIFPA fait pitié à côté de l'OCDE en termes de productivité. Allez faire un tour sur le site. C'est une institution qui produit énormément de données, qui suit des tendances, qui mène des analyses et fournit des prévisions sur le développement économique, les échanges, l'environnement, l'éducation, l'agriculture, les technologies, la fiscalité, Alouette. Okay? Ce que je veux dire par cette citation-là, c'est que ça déborde beaucoup l'économie au sens technique du terme. OK? Elle régule, elle produit et elle diffuse un savoir, son savoir auprès des décideurs et des personnes d'influence. Je crois qu'on peut dire, on aura peut-être l'occasion d'en parler un peu plus tard aussi, c'est une formidable machine de diffusion auprès d'une certaine opinion publique mondiale, d'un certain diagnostic sur l'éducation publique primaire secondaire. Ce qui fait que, par exemple, pour illustrer ça, PISA est devenu un événement médiatique assez fort dans bon nombre de pays. L'OCDE n'est pas neutre, et si elle mesure des acquis scolaires, c'est pour une raison particulière, c'est parce qu'elle associe ça au développement économique. L'idéologie de l'OCDE... c'est le primat de l'économie du marché. Et là, la citation m'apparaît assez évidente, là, qui nous dit que l'OCDE regroupe les gouvernements attachés au principe de la démocratie et de l'économie de marché en vue de soutenir une croissance économique durable, développer l'emploi, élever le niveau de vie, maintenir la stabilité financière, aider les pays membres et non membres à développer leur économie, contribuer à la croissance du commerce mondial. C'est clair. Dans ce cadre économique-là, l'éducation est importante parce qu'elle est un moteur de croissance et de développement. De croissance et de développement du capital humain et du capital social. En autant, là, en autant n'est pas insignifiant, en autant que l'on identifie l'inventaire des qualifications adaptées pour parvenir à une croissance soutenue, durable et équilibrée au 21e siècle. Il faut donc que l'éducation, pour qu'elle soit un moteur de croissance, qu'elle développe les compétences nécessaires pour cette croissance soutenue, durable et équilibrée, et que l'investissement en éducation y soit solide, efficace et juste. Au sein de l'OCDE, de la grande institution, il y a 4 sous-secteurs en éducation. Il y a un secteur d'analyse des politiques. Il y a le Centre pour la recherche et l'innovation de l'enseignement, le CIRI, qui existe depuis plusieurs décennies. Il y a un secteur qui est centré sur la gestion de l'enseignement supérieur. Et puis, il y a le secteur PISA. Je ne connais pas les relations entre ces 4 secteurs-là. Il est possible que, comme dans n'importe quelle bureaucratie un peu développée, leurs relations ne soient pas nécessairement ou parfaitement bien coordonnées. Ça se peut que ce soit des entités autonomes. Le programme PISA n'est pas tout seul. Et il y en a 3 autres qui sont en développement et qui peut-être intéresseront certains d'entre vous. Il y a le programme TALIS qui existe, qui est en cours de réalisation, qui est une enquête internationale sur l'enseignement et l'acquisition de connaissances auprès de 90 000 enseignants et directions d'établissement dans 23 pays. Aux dernières nouvelles, le Québec réfléchissait à savoir s'il embarquerait ou pas dans TALIS, parce que indirectement, il y a un enjeu du côté de l'évaluation des enseignants dans cette étude-là. Il y a le PIAC, l'évaluation internationale des compétences des adultes, le PISA pour les adultes, on pourrait dire, qui est en cours et qui devrait être complété pour 2013. Et puis, il y a le AELO, qui est l'évaluation internationale des résultats de l'enseignement supérieur, okay. Et qui est en phase d'études de faisabilité. Je ne fais juste mentionner ça pour dire que, d'une certaine manière, PISA, c'est le début de cette immense tentative de mesurer un certain nombre d'acquis de compétences et de savoirs. À tous les ordres d'enseignement, PISA, c'est primaire, secondaire, ou l'enseignement obligatoire, avec le PIAC et l'ALO, on monte les autres niveaux du système éducatif. Okay. Voilà. Le PISA, je termine avec ça, se donne une crédibilité scientifique dans la mesure où il y a un consortium international qui construit les tests et les questionnaires. M. Brochu, vous pourrez en parler mieux que moi, mais ce n'est pas, en guillemets, des professionnels ou des fonctionnaires de Paris qui gèrent PISA. C'est un consortium international qui construit les instruments, qui fait la collecte des données et qui analyse les résultats, comme dans une espèce de sous-traitance ou de partenariat privé-public, si on peut dire ça comme ça, d'institutions de recherche et d'enseignement dans lesquelles on retrouve le Conseil australien de la recherche en éducation, le Netherlands National Institute for Educational Measurement, que peut-être certaines personnes ici connaissent, le Service de pédagogie expérimentale de Liège, et puis quelque chose qui s'appelle Westat, mais que je ne connais pas. Je ne sais pas si c'est américain ou si c'est... C'est américain. Bon, voilà. Et ça donne... On peut dire que c'est important pour la légitimité scientifique de PISA. Voilà. Alors, moi, j'arrête là. Et je cède la parole à M. Brochu.